Les samedis de l'abbaye de Belloc, voici une conférence de l'abbé Philippe Veitia, docteur en théologie et chancelier du diocèse de Bayonne. Les saints évêques des premiers temps des diocèses de Bayonne, Lescar et Oloron. Cette conférence a été enregistrée le 4 mai 2024 à l'abbaye de Belloc, Habitat et Humanisme. Les saints évêques des premiers temps des diocèses de Bayonne, Lescar et Oloron, l'abbé Philippe Veitia.
Les saints évêques des premiers temps des diocèses de Bayonne, Lescar et Oloron. Pour présenter ces saints évêques des premiers temps, donc voilà les premiers siècles du christianisme pour ces régions-ci, 6e siècle, peut-être 7e siècle, bon, et guère plus, et on n'a pas vraiment de. Donc pour présenter ces saints évêques, j'aurai en ligne de mire tout d'abord un ouvrage qui s'appelle « Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule ». Alors quand ce mot « faste », c'est pas le décorum ou la pompe épiscopale, le mot « faste » veut dire « liste » aussi. Cet ouvrage est un ouvrage de Mgr Louis Duchesne, bon, qui est mort il y a déjà un moment, qui a établi l'origine des églises de Gaule et la succession de leur premier évêque. Et donc Louis Duchesne a été élève de l'école française d'archéologie de Rome. Homme de lettres, il est devenu rapidement un éminent spécialiste de l'histoire du christianisme ancien, avec des publications comme le Liber Pontificalis et ce genre de choses. Et donc c'est toujours une référence. Voilà. Or, ça se situe un peu dans une querelle qu'on appelle, au XIXe siècle, on a pensé que chaque évêque remontait directement à un apôtre particulier. Bon, il y a eu beaucoup de débats et on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Je pense que le travail de Louis Duchesne est un peu dans cette perspective-là, de voir un peu les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on les affabule. Un autre ouvrage que j'ai en ligne de mire, c'est le Martyrologe romain, sa version de 2001-2004. Hein. Quand vous allez dans des monastères, le soir, au repas, on entend les lectures du Martyrologe, bon, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais voilà, le titre Martyrologe, son titre renvoie au sens premier du terme martyr, c'est-à-dire témoin. Alors, ce livre contient, avec une notice pour chacun, la liste des témoins de la foi que l'Église honore comme sainte, comme saint, comme bienheureuse, comme bienheureux. Quant à l'adjectif romain, il vient préciser que ce livre concerne l'Église d'Occident. Les Églises d'Orient ont leur propre livre. Cette édition de 2001-2004 est un fruit du Concile Vatican II. La précédente édition se basait sur ce qu'on appelle des légendes hagiographiques, c'est-à-dire des choses qui remontaient au Moyen-Âge dans un pèlerinage ou pour le culte des saints. On avait constitué des textes, des légendas, des choses qu'on devait lire, mais des textes qui étaient plutôt édifiants, c'est-à-dire que le martyr était archi-martyrisé, mais on le voyait sortir de là comme une fleur, annoncer le Christ, ou bien on multipliait les miracles, on n'avait pas du tout l'idée de quelque chose d'historique. Alors avec le temps, ça posait problème, déjà avec la réforme protestante, et à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, donc il y a une trentaine d'années, mais on a revu ce livre. Et l'objectif de la version moderne de ce martyrologe est de redonner au culte des saints une plus grande authenticité. Il a donc fallu vérifier les données historiques de tous les saints d'Occident, même de nos saints locaux, notamment les plus anciens. Et on a ajouté les données concernant les nouveaux saints bienheureux proclamés entre les pontificats de Pie XII et de Jean-Paul II. Donc il y a eu deux éditions de ce livre. Et la seconde a été augmentée d'un tiers à cause des canonisations faites par le pape Jean-Paul II. Bon, pour le moment, on l'a traduit en espagnol, en italien, etc. On n'a pas de traduction officielle française. Mais bon, voilà. Donc, compte tenu de un peu de l'aspect scientifique de ce travail, j'en tiens compte, bien sûr. J'ai repris aussi des éléments dans les ouvrages classiques du chanoine du Bara, du docteur Labo pour Lescar, tout comme dans l'histoire du diocèse de Bayonne de feu Monseigneur Goïti. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet, je vais tenter d'y entrer un peu chronologiquement. Alors, premier évêque, bon, c'est un évêque, si j'ose dire, béarnais, encore que, bon, Saint-Julien de Lescar. Donc, dans l'Antiquité, Lescar ne s'appelle pas Lescar, mais Bénéarnum. Bénéarnum deviendra le terme Béarn. Donc, il y aurait eu un évêque de Lescar, de Bénéarnum, au 5e siècle, Saint-Julien, mais cela fait problème, parce qu'il n'est mentionné ni dans les fastes de Duchesne, ni, vérification faite par moi, dans le martyrologe de 2001-2004. Et il y a discussion entre les spécialistes. Bon. Certains se demandent s'il a bien existé. Voilà. Alors, croyance et tradition se portent garantes de l'authenticité de Saint-Julien. Elles font donc de lui l'évangélisateur de la cité de Bénéarnum et le fondateur donc de ce diocèse. Alors, une telle croyance serait fondée d'une part sur les actes d'un concile régional mais important pour l'Église qui est le concile d'Orange de 441, et sur une vie de Saint-Julien, mais cette vie de Saint-Julien n'est rapportée que par le bréviaire de Lescar en 1541, donc au VIIe siècle, quand même près de 1000 ans. Voilà. Donc, elle nous apprend en effet que l'évêque de Trèves, un certain Léonce, aurait envoyé le diacre Julien, d'origine aquitaine, pour évangéliser la contrée de Lescar, nous dit les vieux textes, plongé dans les ténèbres de l'idolâtrie, et l'aurait ordonné évêque de Bénéarnum, de Lescar, en l'encourageant pour cette mission. Julien aurait obéi et se serait adjoint pour cette tâche deux prêtres, Austrilien et Alpinien. Austrilien succombe aux fatigues du voyage, Julien se serait découragé et serait revenu à Trèves, auprès de Léonce, qui lui aurait dit, bien sûr, de reprendre sa mission sans tarder. Donc, Julien reprend sa route vers Bénéarnum, vers Lescar. Avec ses trois compagnons, il parvient au terme de son périlleux voyage. Alors, on est dans un contexte d'invasion des barbares, où tout est défait. Et donc, les habitants de Lescar, qui avait échappé au glaive des Vandales, vont trouver en lui un consolateur, vont accueillir favorablement son enseignement, qui, accompagné par les bons exemples et les miracles, lui gagne tous les cœurs et amène bien des gens au baptême. La légende note ensuite la mort de Julien et son inhumation dans une église de Lescar, depuis longtemps disparue. Que faut-il penser de telle assertion ? Pour ce qui est de la mission évangélique confiée à Julien, elle n'apparaît pas invraisemblable. Trèves est la préfecture des Gaules, administrativement, donc, il y a une importance. Et son évêque pouvait fort bien dépêcher un missionnaire à Bordeaux, en Aquitaine, qui faisait partie de ce que l'on appelle la Novem Populani. La Novem Populani, c'est une province romaine qui est située dans le sud-ouest de la France actuelle, qui correspond grosso modo à la Gascogne, au Pays basque français, avec quelques incursions dans les régions d'Auch, de Tarbes et du Comminges. Bon, bien. Par contre, la légende dorée de Saint-Julien ne saurait être retenue. D'une part, elle n'est étayée par aucun document sérieux. L'identification qui a été faite de Saint-Julien avec un évêque du nom de Julius qui participe en 441 au concile d'Orange s'avère en outre erronée. Monseigneur Duchesne prouve que ce même Julius ou Julien appartenait à l'église d'Apt, donc ça peut pas être le même. Le chanoine du Bas-Rhin a été également frappé par l'étrange ressemblance qu'offre dans l'ensemble et dans les détails la légende de Saint-Julien de Lescar avec celle de Saint-Martial de Limoges. Bon, au Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup de scrupules, voilà, on veut faire une vie de saint. On prend déjà un texte qui existe, on gratte le nom et on remet un nom nouveau. Par exemple, le père Cabier racontait que dans son village de Rabastens, près d'Albi, il y a eu au Moyen-Âge une mystique, une Constance de Rabastens, ainsi elle s'appelait. Ben, quand elle est morte en odeur de sainteté, alors qu'il y avait des témoins, on n'a pas interviewé les témoins, on a pris un texte, on a gratté, puis on a mis le nom de Constance. Ben, vous voyez l'aspect historique quoi, d'un texte qui existe déjà. Mais bon, voilà. Il apparaît ainsi clairement que la légende n'est guère antérieure à l'apparition du bréviaire de l'office de Lescar de 1541, donc elle n'est pas antérieure au XVIe siècle. Alors bon, qui était donc Saint-Julien ? Est-il un personnage apocryphe ? Est-il un patron secondaire de Lescar, le titulaire de l'église située dans la basse ville qui lui est dédiée? Peut-on le considérer comme l'évangélisateur du Béarn? Il y a toutes ces questions. Peut-on le considérer comme le fondateur de l'évêché? Et quand on regarde le bréviaire de Lescar, c'est pas à lui qu'on attribue, si j'ose dire, la fondation du diocèse. On attribue la prééminence à un autre évêque dont nous avons parlé, Saint Galactoire. Cependant, dans ce même bréviaire, de vieilles antiennes chantent la gloire de Saint-Julien et le peuple fidèle l'appelait son patron. Autant de questions qui demeurent sans réponse formelle. Alors, si Duchesne considère qu'il n'existe pas, et si le martyrologe de 2001-2004 va dans ce même sens, le diocèse de Bayonne n'est plus nuancé, puisque nous avons gardé Saint-Julien de Lescar dans notre calendrier liturgique comme mémoire facultative à la date du 23 août. Et l'oraison qui lui est attribuée « Contemple Dieu, lumière des fidèles et pasteur des âmes, mettant Saint-Julien à la tête de son peuple pour le nourrir de sa parole et le guider par son exemple. » Elle demande par son intercession de garder la foi qu'il sut transmettre et de suivre le chemin qu'il a tracé. Bon. Alors maintenant, nous allons entrer voir des figures plus établies, si j'ose dire. Saint Galactoire et Saint Gratte. Bien. Donc, avant l'arrivée des barbares. Barbares, c'est 375-568, grosso modo. Le temps n'est pas à la création de diocèse, mais plutôt à leur disparition. À partir du VIe siècle, c'est la nuit qui tombe sur les cités d'Aquitaine. À mesure que, sous la poussée des nouveaux arrivants, l'administration romaine disparaît, le rôle de l'évêque, il est vrai, prend un plus grand relief. Il devient le défenseur de la cité. Voilà. Mais, par ici, à un moment donné, on a un certain Gombeau qui est évêque de Gascogne. On se veut dire que tous les autres diocèses étaient vraiment ruinés, quoi. Hein? Bien. Donc, on a pu dire que la prépondérance de l'évêque est le grand fait social des temps barbares. Mais dans bien des cas, l'invasion barbare aura comme conséquence la ruine de l'organisation ecclésiale, surtout dans les cités où elle était d'implantation récente. Et le phénomène sera sensible en Novem Populi. La situation politique, sociale et même religieuse en sera profondément perturbée au cours des 6e et 7e siècles. Un signe de cette désagrégation peut être perçu dans le fait que les listes épiscopales, soigneusement établies et religieusement gardées jusque-là, s'interrompent à cette époque pour n'être reprises que beaucoup plus tard. Voilà, on a noté, vous savez, le nom de chaque évêque. Bon, donc voilà. Et à partir des temps barbares, on voit qu'il y a interruption, bon, compte tenu des circonstances, et on va reprendre la notation des noms d'évêques bien plus tard, quand la paix se sera établie et que les choses seront un peu remises sur pied. Quelques exemples. Le diocèse d'Oloron n'a plus d'évêque connu à partir de 555. À Lescar, on ne trouve que deux évêques isolés après Saint Galactoire. De même, Dax est privé de son évêque après 610. Pour Bayonne, on ne connaît aucun nom d'évêque. Bon, c'est sûr que pour Bayonne, on a des traces avec Saint-Léon, hein, encore au 9e siècle. On pense qu'il y a eu quelque chose avant, mais on ne sait pas trop quoi. Donc, il est difficile de se faire une idée précise de la vie religieuse des chrétiennes de cette partie du sud des Tarbélies. On peut supposer qu'elles bénéficiaient de l'organisation paroissiale qu'avait connue l'église gallo-romaine du IVe siècle. En ce début du VIe siècle, l'évêque de Dax assistait au concile d'Agde, tout comme Saint Galactoire de Lescar et Saint Grat d'Oloron. Donc, nous avons deux évêques béarnais, Galactoire de Lescar et Grat d'Oloron, qui signent les actes du concile d'Agde. Alors, qu'est-ce que c'est ce concile ? Concile d'Agde, c'est dans le sud-est, si mes souvenirs sont bons, de 7 par là. Bon, il est réuni en 506, c'est un concile provincial qui réunit les évêques du Midi de la Gaule. Et les canons, autrement dit les décisions adoptées par le concile, par les évêques, là, portent la trace d'un souci pastoral. Il s'agit, dans les décisions du concile, de situations très concrètes concernant les clercs et les laïcs, qui suppose l'existence d'une authentique vie chrétienne, même si celle-ci laissait beaucoup à désirer au regard de l'Évangile. Bon, et donc, voilà, je vous dis un peu les titres des décisions d'Agde. Par exemple, les canons d'Agde se rapportent à l'irrégularité de la bigamie, bon, aux fautes des clercs et aux peines à leur infliger. Bon, rien n'est nouveau. Aux excommunications trop facilement portées par les évêques, au bien des églises, au célibat ecclésiastique et aux moyens de le garder, à la consécration des autels, à la pénitence, à l'âge des ordinations, à l'obligation de communier à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, bon, ce qui suppose que, bon, on ne devait pas le faire, à l'âge où les moniales peuvent recevoir le voile, aux oratoires établis en dehors des paroisses, à la préférence qui doit être accordée aux clercs selon leur âge, aux maris qui abandonnent leurs femmes, aux monastères et aux moines, aux affranchis, donc voilà, des esclaves qui en a donné la liberté, à l'ordre de l'office divin, aux ennemis qui refusent de se réconcilier, aux causes des clercs portées devant les tribunaux civils, aux catéchuménats à imposer aux juifs, à la convocation des conciles, aux honoraires des clercs, aux affaires économiques quand même, aux homicides et aux faux témoins, aux clercs et aux moines vagabonds, au rapport avec les juifs, à la divination, aux fugitifs, à l'obligation d'assister à la messe jusqu'à la fin, et à la tenue annuelle du synode. Donc, vous voyez, il y a des choses en même temps, vous voyez, concernant la liturgie, concernant la discipline, concernant les conflits, enfin bon, vous voyez. Donc, notre martyrologe romain, de 2004, le 19 octobre, jour de sa fête, porte ceci pour Saint Grat. À Oloron, dans les Pyrénées, commémoraison de Saint Grat, évêque, qui au temps du roi Arien des Goths, d'Ego Alaric, participa au concile d'Agde pour restaurer l'église de cette région de la Gaule et qui mourut après 506. Voilà ce qu'on retient historiquement. Grat d'Oloron, bon, il serait né au 5e siècle à Lichos, dans la basse vallée du Cézon. Son nom de baptême, Gratus, signifie en latin « agréable, charmant » et aussi « reconnaissant ». Sa jeunesse a été marquée par les persécutions des catholiques par le roi arien Visigoth. Voilà, on se trouve aussi avec l'arianisme qui ne reconnaît pas que Jésus est le Fils éternel, qu'il est vraiment Fils de Dieu. Bon, alors, ça c'était tout avec le concile de Nicée, il y a eu quand même beaucoup de bagarres. Bon, les Visigoths vont venir dans cette partie, vont envahir l'Espagne, elle va être arienne jusqu'aux années 587 à peu près. Mais donc, bon, bien sûr, il va y avoir des luttes entre, et des persécutions donc, du pouvoir arien envers les catholiques. Alors donc, Gratus est le premier évêque connu d'Oloron. Il participe donc à la tenue du concile d'Agde en 506, qui réunit 34 évêques catholiques du royaume visigothique sous la présidence de Saint Césaire d'Arles, grande figure de l'église de Gaule. En 507, les Wisigoths sont battus par Clovis à Poitiers. Mais, à la mort de Clovis en 511, les Wisigoths sont encore très présents au sud de la Garonne, en Aquitaine. C'est pendant cette période que Saint-Gras serait mort à Raca, d'où son corps aurait été amené à Oloron pour y reposer définitivement. Bon, donc nous l'avons au calendrier, au 19 octobre, si on va à Oloron, c'est une grande fête, hein. Religieuse, civile, gastronomique, enfin, avec le canard, si mes souvenirs, si j'ai bien compris. Voilà, donc l'oraison de la fête va contempler Dieu, élevant l'évêque Saint-Gras au triomphe de l'éternité. Elle demande pour la communauté, fière de sa protection, la joie qui convient à cette fête, la lumière de sa grâce, d'être attentive à la vérité, et de rechercher ce qui est juste et que la sainteté de vie lui obtienne de partager son bonheur. Bon, voilà pour Saint-Gras. On n'en sait pas plus. Enfin, c'est quand même mieux que pour Saint-Julien, quand même. Bon, plus établi. On va voir un tout petit peu plus pour l'évêque galactoire. Le martyr horloge romain porte la notice suivante concernant Saint-Galactoire, dont on ne connaît que la participation au concile d'Agde et de son martyr. À l'escar d'un Béarn au VIe siècle, Saint-Galactoire, évêque vénéré comme martyr. Bon, vous voyez, la formulation est prudente. On va voir pourquoi. Donc voilà, il connaît les mêmes circonstances historiques que Gratte et signe lui aussi les actes du concile d'Agde. Or, il meurt à Mimizan. On peut penser que... Pourquoi est-ce qu'il est à Mimizan, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il y fait? On peut penser que Galactoire se trouve à Mimizan vers 507 afin de rencontrer l'évêque de Bordeaux pour mettre probablement en œuvre les décisions d'Agde. Qu'il a été surpris par quelques hordes de Wisigoths. Ces Wisigoths viennent d'être mis en déroute à Vouillé par Clovis. Il s'enfuit précipitamment vers les Pyrénées, et il est probable que ces barbares, humiliés par leur défaite et aussi par haine du catholicisme, mirent à mort Galactoire, évêque de Bénéarnom, de l'Escar. D'où la formulation prudente du martyrologe, vénéré comme. Il est vénéré comme, mais on ne vous dit pas, pour d'autres cas, dans le martyrologe, on vous dit que carrément qu'un tel est martyr, quoi. Enfin, bon. Donc, voilà. Alors, le corps du martyr fut pieusement conservé jusqu'à la réforme protestante dans une châsse située au-dessus du maître-autel de la cathédrale de l'Escar et que des chanoines nobles ou gradués veillaient. C'est-à-dire les gardiens de ces reliques, c'était pas n'importe quels ecclésiastiques quand même. L'office de la translation des reliques, de Mimizan à l'Escar quand même, figure donc se célébrer le 5 janvier de chaque année. Pour la petite histoire, il faut savoir que Saint-Galactoire figure au Panthéon à Paris et qu'il a été représenté sous les traits de Georges Clémenceau à cause de l'avantageuse moustache franque qu'avait Clémenceau. Clémenceau qui n'avait rien d'un clérical. Bon, voilà, mais voilà. Vous savez donc... Vous avez une espèce de superposition de Clémenceau et de Galactoire. Bon, nous l'avons dans le calendrier. Tout ça, c'est des mémoires facultatives. Parce que, bon, Galactoire, ça parlait en Béarn, ça parlera pas à Bayonne, quoi. Ni à Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin, bon. Vous fêtez à Béloc. Donc, le 27 juillet, l'oraison contemple Dieu, donnant à Saint-Galactoire le courage de mourir pour la liberté de la foi. Donc là, l'oraison prend parti pour le martyr. On attend de sa prière qu'elle nous obtienne la grâce de supporter toute adversité par amour du Seigneur et de tendre de toutes nos forces vers lui qui est notre vie. Et voilà, Saint-Galactoire, il a été martyrisé à Mimizan, diocèse d'Eredax, où une église a été construite sur le lieu supposé de son martyr. Et donc de ce fait, le diocèse d'Eredax le célèbre également. Mais... on n'a pas la même oraison dans le diocèse d'Eredax. Voilà, l'oraison qui lui est attribuée contemple Dieu, lumière des croyants et pasteur des âmes, mettant Saint-Galactoire dans l'Église pour nourrir son peuple son peuple de sa parole et le former par son exemple. Elle demande par son intercession de garder la foi que sa parole a enseignée et de suivre le chemin que son exemple a montré. Bon, vous voyez que c'est une reprise avec des modifications de l'oraison que nous avions pour Saint-Julien de Lescar. Bon, c'est un peu paradoxal que sur le lieu du martyr supposé, on ait un texte plus neutre. Dans l'escabayonne, bon, on prend davantage parti. Bon, voilà, un peu pour ces évêques béarnais, dirons-nous. Bon, maintenant, on va voir des choses, davantage d'éléments pour quelqu'un comme Saint-Amand. Au cours de la deuxième moitié du VIe siècle, les Visigoths vont s'établir dans le sud-ouest de la Gaule et au sud des Pyrénées. Donc je vous ai dit que de ce côté Pyrénées en Aquitaine, ce qui domine, c'est la ruine des anciennes institutions. C'est l'ère des évêques missionnaires. Même s'ils détiennent un siège officiel dans une cité, ils vont, à leur initiative personnelle ou par mandat hiérarchique, se rendre dans des régions défavorisées. Bon, c'est pas l'évêque comme on le connaît aujourd'hui, quoi. Alors, il y a peut-être un siège épiscopal, bon, on va voir que pour Saint-Amand, il y a des choses assez étranges. Mais bon, il prend son bâton de pèlerin, il va évangéliser à droite, à gauche, bon. Donc, parmi ces évêques missionnaires, il faut compter Saint-Amand. Or, il naît à la fin du VIe siècle, au début du VIIe siècle, probablement en Aquitaine. Il quitte assez jeune son pays natal, d'abord pour se faire ermite dans l'île Dieu. Bon, et ses parents, qui doivent trouver que c'est peut-être un peu rapide, le font revenir. Mais il les quitte à nouveau pour vivre en ermite près de la cathédrale de Bourges. Il s'installe dans une cellule construite sur le mur romain près de la cathédrale Saint-Étienne. Il vit dans l'isolement, mais reste proche de l'église voisine. Les moines de cette époque ont multiplié les pèlerinages sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul. On comprend que Saint-Amand ait voulu faire le pèlerinage à Rome. Il en visite les églises, notamment la basilique Saint-Pierre, enfin, telle qu'elle était à l'époque, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Et là, il a une vision de Saint-Pierre qui lui dit de partir en Gaule. Cette vision aurait déterminé sa vocation. Il reçoit du pape une bénédiction et il reçoit des reliques, l'importance des reliques à l'époque. Donc, il va se diriger vers le nord de la Gaule et l'actuelle Belgique pour évangéliser cette région où sévit le paganisme et où, depuis les grandes invasions du Ve siècle, les structures de l'Église ont disparu. Les rois Clotaire II, 584-613, et Dagobert, celui de la chanson, hein, donc 623-639, favorisent l'évangélisation. Et Dagobert, le roi Dagobert, va forcer Amand à être un évêque sans siège fixe. C'est une aberration, hein. Concile de Nicée en 325 interdit ce genre de choses. Autrement dit, un évêque pour prêcher, restaurer les églises et baptiser, confirmé dans les régions du Nord. Donc il va se mettre à l'ouvrage avec quelques disciples et pour avoir une base d'évangélisation, il installe un petit monastère à Elnon sur la Scarpe, non loin de la vieille route romaine Boulogne-Bavay et de celle qui va vers le sud, vers Cambrai. Dagobert, à qui pourtant il reprochera sa vie dissolue au point de se faire expulser un temps, lui donnera le monastère et des terres. Ses compagnons d'apostolat vaincus par la faim retourneront chez eux et le laisseront seul. Or, tout en prêchant, Amand travaille manuellement, rachète de nombreux esclaves et en fait ses auxiliaires pour l'évangélisation. Il y aura des conversions et des baptêmes, on détruira des temples païens et on construira des églises. Le roi Sigebert III, 639-656, lui propose d'être évêque de Maastricht. Il refuse dans un premier temps, mais il doit céder sous la pression du roi et des évêques. C'est un évêque prestigieux qui parcourt bourg et campagne. Bien reçu par les aristocrates, il l'est moins bien par les clercs qui refusent de l'aider dans son apostolat. Et il va s'en plaindre au pape de l'époque, à Martin Ier. Martin Ier, c'est 649, 653. Et le pape va lui donner des conseils sur l'attitude à adopter face à ces clercs qui s'opposent à lui. Et il veut aussi l'intéresser à la défense de la foi contre ce qu'on appelle l'hérésie monothélite. C'est une erreur qui soutient que dans le Christ, il n'y a qu'une seule volonté, la volonté divine, alors qu'il y a deux natures, humaine et divine. Bon. Le pape essaie de l'intéresser au combat contre cette erreur. Amand, ne trouvant pas de collaborateur pour évangéliser le diocèse de Maastricht, dépose la charge d'évêque de cette région, malgré les instances du pape Martin Ier, qui lui dit quand même, on a gardé la lettre, quand même, enfin, ça serait dommage, enfin, il vaudrait mieux vous garder cette charge. Quoi. Donc, son zèle le pousse toutefois à évangéliser partout. Il va tenter de convertir les Vascons, Vasconesses, Basques sûrement, païens qui faisaient des incursions dans le sud de l'Aquitaine. Les rois visigoths, malgré le désir qu'ils en avaient, n'arrivaient pas à imposer leur domination dans des vallées et des montagnes souvent impénétrables. C'est de là que les Vascons ont organisé une guérilla qui rendait la vie insupportable à l'occupant. Bon, l'évangélisation d'Amand n'aura pas beaucoup de succès, semble-t-il. Son biographe n'a pas manqué de nous dire quel genre de population constituaient ces Vascons, si peu enclins à adopter la religion du Christ. Là, il les décrit comme un genre très féroce. Ils étaient idolâtres, se livraient à la magie, à la rapine et à la tromperie. Peut-être qu'il y avait un peu mieux aussi. Bon, il va aussi évangéliser les Slaves du Sud. Donc voilà, Amand est essentiellement un défricheur. Un peu comme Saint Paul. Quand Saint Paul évangélise, après il confie à d'autres. Un peu comme plus tard Saint François Xavier. Regardez la vie de Saint François Xavier, et voilà, il va évangéliser, puis ensuite, ben voilà, il va confier à des collaborateurs. Voilà, c'est un défricheur. Donc, quand il a fondé une communauté, il la laisse en d'autres mains et il part de l'avant. Pour assurer la stabilité de son œuvre, il va fonder plusieurs abbayes qui seront des centres de rayonnement chrétien, entre autres celles de Saint-Pierre de Gand, de Nivelles, de Barisy-aux-Bois en France, et surtout l'abbaye d'Elnon, qui est aujourd'hui Saint-Amand-les-Eaux. Et c'est là qu'il meurt en 679. Moyennant quoi, dans le martyrologe de 2001-2004, nous avons plus de détails dans la notice. Et donc, le 6 février, nous trouvons à Elnon, donc Saint-Amand-les-Eaux, en Gaule, Belgique, déposition de Saint-Amand. Déposition, ça veut dire qu'on l'a enterré. Il est mort, on dépose. Déposition de Saint-Amand, évêque de Maastricht, qui annonça la parole de Dieu dans de multiples provinces et à de nombreux peuples, et ce, jusque chez les Slaves. Il acheva son existence mortelle dans le monastère qu'il avait fondé. Voilà, la notice donne les grandes lignes de son apostolat. Bon, nous l'avons au calendrier le 7 février, parce que le 6 février, on célèbre des martyrs, je crois Saint Paul Miki, comme toute l'Église les célèbre, on a déporté au lendemain. Donc l'horizon de la fête contemple Dieu qui a donné au peuple païen de passer des ténèbres à la lumière de la vérité grâce au ministère de Saint Amand. Elle demande au Seigneur, par son intercession, que la communauté reste ferme dans la foi et persévère dans l'évangile, selon l'évangile qu'il a prêché. Dans l'office pour les lectures, on a je crois qu'on se réfère au propre de Belgique, on a un bout de cette lettre du pape Martin Ier pour intéresser Saint-Amand la défense de la foi catholique contre l'hérésie monothélite, et où il dit que quand même, ne plus rester évêque, enfin, c'est pas bien, quoi. On a un petit texte. Bon, autre, Saint-Léon de Bayonne. Bon. Là aussi, on est dans quelques... pas tout à fait dans la ténèbre, mais pas vraiment non plus dans la lumière, quoi. Alors, il serait né à 40 ans, donc une ville de la Manche. Bon, alors, Ça aussi, ça a été contesté par Dubarat, par Chanoine Dubarat, parce qu'il dit, ben dans le fond, là-bas en Normandie, ils n'ont jamais su qu'il y avait quelqu'un qui était venu évangéliser le Sud, jusqu'au moment où ils ont appris qu'il y avait le culte de Saint Léon à Bayonne et qu'ils l'ont donc rapatrié là-bas en Normandie. Donc là, il y a un peu ce genre de choses. Quand j'ai travaillé un peu pour refaire le propre du diocèse de Bayonne, parce qu'il est quand même un peu léger, celui que nous avons. Bon, maintenant, il est à Rome, mais avec Rome, il faut attendre. Et j'avais quand même écrit en Normandie, quand même, pour... Et je, dans ma lettre, de manière un peu impertinente, sûrement, je lui ai dit... Très sûrement, vous ne l'avez pas dans votre calendrier. Réponse du chancelier. Mais si, père, nous l'avons dans le calendrier. Donc voilà. Je crois qu'ils ont mis comme texte pour les lectures un texte de Karl Barth, ou non plus de Karl Rahner. Bon, donc, office un peu moderne, quoi. Bon, donc, voilà. La tradition donne cela. Bon, beaucoup, beaucoup iraient dans ce sens. Il serait parti avec ses parents rejoindre la cour du roi Louis II, 806-876, de Germanie, sur les bords du Rhin, en Bavière. Mais ses dispositions et ses goûts l'auraient fait s'en éloigner. Puis il serait venu à Paris étudier dans une école fondée par Charlemagne et serait entré dans la cléricature. En 888, il aurait été nommé archevêque de Rouen. Peu de temps après, il aurait été chargé par le pape d'évangéliser les Basques. Premier évêque de Bayonne, là aussi, premier évêque connu. Si d'aventure il y a eu quelque chose à Bayonne avant, dont on n'a pas trace, il est possible qu'il y ait eu des évêques à Bayonne. Voilà, un peu comme le dieu inconnu de Saint-Paul, les évêques inconnus de Bayonne. Il convertit les païens du Labour, Bayonne, de la Navarre, de la Biscaye, et meurt décapité par les Vikings en même temps que ses frères Philippe et Gervais, ses compagnons d'apostolat. Il est le patron de l'église de Bayonne. On a deux légendes de textes de la légende de Saint-Léon. Pour là, un livre que Jean-François avait recommandé, mais qui vaut le coup, de Coldo Robles Aranguis. Et Michou Padronès, Viking de Bayonne, la légende de Saint-Léon, publié par Atlantica. Bon, c'est en plus très joliment illustré. Bon. Alors, ça reprend quand même des études diverses sur ces questions. Ça présente des points de vue différents. Mais bon, elle décrit un peu les deux légendes. Alors, première légende, brève. Cette légende nous est parvenue par deux textes rédigés par des auteurs anonymes à des époques différentes. Le premier est appelé « Vie brève » et aurait été écrite entre le XIe et le XIIIe siècle. Bon, Saint-Léon, c'est le IXe quand même. Le second, nommé « Vie longue » et plus tardive, et semble remonter au XVIe siècle. Encore un peu plus de temps. Bon, alors donc, je vous ai dit tout à l'heure que... bien. Voilà, ce sont des légendes hagiographiques. Donc, il faut quand même y regarder d'un peu près, quoi. Hein. Donc, on aurait la seconde version de la légende est plus longue et romancée. Donc, elle va conserver un schéma général, donc en 9 points. 9 points, voilà, donc on arrive dans la ville, les portes sont fermées, donc Saint Léon et ses frères dorment dehors, puis bon, ils sont accueillis, il y a une première annonce de l'évangile, bon, il y a quelques difficultés, on en repart, on va évangéliser ailleurs. On pensait que Saint-Léon est, par exemple, honoré par les églises de Navarre, celle de Pamplune. Bon. Là, on y revient, beaucoup de conversions, mais aussi, donc, voilà, donc, il souffle sur une statue du dieu Mars. Bon. Vous voyez, Dumas et Viking, ça ne colle pas tout à fait non plus. Et la statue s'effondre, donc il est martyrisé, il est décapité, et puis il va reprendre sa tête et la porter durant un petit temps, une heure, sur quelques mètres. Et là où il a été décapité, surgit une source. Et on a effectivement à Bayonne trace de cette fontaine. De cette fontaine Saint-Léon. Ça peut vouloir dire aussi, vous avez ça aussi à Rome, hein, voilà, là où aurait été décapité Saint-Paul, la tête de Saint-Paul aurait fait trois rebonds et trois sources en seraient nées. Qu'est-ce à dire? Si vous décryptez, si vous enlevez la peinture, si j'ose dire, ça veut dire que l'annonce de la parole de Dieu par des témoins procure le baptême, procure la grâce, symbolisée, mettons, chez Saint Jean, par l'eau vive. Vous voyez, vous avez cela. Ou vous pouvez faire aussi une autre lecture tout aussi traditionnelle. Le sang de martyr et semence de chrétien. Autrement dit, l'histoire nous montre que jamais l'évangile n'a été accueilli comme ça, simplement, facilement. Chaque fois que l'évangile a été annoncé à un endroit qui n'avait pas été christianisé, il y a eu des oppositions, parce que l'évangile, bien sûr, vient contester des manières de vivre personnelles, sociales, économiques, et il y a toujours eu des martyrs. Voilà. Mais que suite à ces martyrs, il y a eu par grâce de Dieu, la naissance de communautés chrétiennes. On parle par exemple de... Bon, j'ouvre un peu une parenthèse. On parle de Saint-Pierre Chanel, apôtre de l'Océanie. Son biographe raconte que, voilà, il évangélisait très peu de résultats. Bon, jusqu'au moment où il a converti le fils d'un prince, bon, ça s'est mal passé, donc il était mis à mort. Et à partir de là, voilà, l'Évangile a pris en Océanie et l'Église s'y est développée, hein, par exemple. Bon, donc voilà, pour Saint-Léon, les légendes rapportent qu'à son arrivée à Bayonne, il va trouver porte close, mais que le lendemain, elles lui sont ouvertes et qu'après ses prédications, il baptise un grand nombre d'habitants. Il se serait ensuite rendu au temple de Mars, dont il aurait renversé l'idole en soufflant dessus. Et donc, il est aussi rapporté que décapité près de la Nive, il se tint encore debout une heure, puis il releva sa tête tombée à terre et la porta à une distance de 80 pas jusqu'à un lieu où jaillit une fontaine réputée depuis miraculeuse. Donc, il est représenté portant la tête d'Aim. Bon, mais les anachronismes et les invraisemblances de cette légende sont telles qu'il est difficile d'en discerner les éléments historiques. La légende suppose un fait historique qui en est le sujet ou le prétexte. Ce fait historique est orné ou défiguré par l'imagination populaire. Les deux éléments, histoire et imagination, peuvent être combinés à des doses très inégales selon que l'on insiste davantage sur la réalité ou la fiction. Que tirer d'un point de vue historique de la légende de Saint-Léon? D'une part, elle fait référence aux incursions des Normands sur la côte aquitaine pour piller, réduire en esclavage et vendre les esclaves. Il est fort possible que lors de l'incursion normande de 861, des hordes de pirates se soient établies entre autres à La Pourdoum, l'ancien nom de Bayonne, et dans quelques localités voisines de l'embouchure de l'Adour, et qu'avec leurs faux dieux, ils aient imposé leur langue, et qu'avec le temps, ils aient fait souche. Alors, l'évangélisateur qui était Saint-Léon devait parler la langue des Normands, dans l'hypothèse où on tient qu'ils viennent de Normandie. Ce qui lui était aisé, puisque né en Normandie. Bon, là je vous présente des hypothèses. Il est clair que sa mission, qu'on peut dater des années 890-892, avait deux visées. Évangéliser les Normands, voilà, qui sont par chez nous, bien sûr, mais aussi restaurer l'Église dans une région où les invasions l'avaient mis à bas. On a vu tout à l'heure pour Gratte et Galactoire que c'est ce qu'ils ont fait. Mais bon, eux, aidés sûrement par le Concile d'Agde. Bon, donc, mais on a cette perspective-là, bon, c'est une catastrophe, donc on va restaurer l'Église. Il est probable que le martyr de Saint-Léon soit dû à l'opposition du paganisme normand à sa mission. Comme les données historiques sont maigres, le martyrologe de 2001-2004 porte au 1er mars en Vasconie, en latin in Vasconia, comment traduire ? En Pays Basque ? En Gascogne ? Bon. In Vasconia. Saint-Léon, évêque et martyr, point final. Bon. L'oraison de sa fête contemple Dieu qui a appelé nos pères à la lumière de l'Évangile par la prédication de Saint-Léon, évêque et martyr. L'Église attend de son intercession de croître en sainteté et de mieux connaître le Fils de Dieu, Jésus le Christ, notre Seigneur. Bon, la célébration de ces saints évêques met en lumière que l'évangélisation est toujours à reprendre de génération en génération dans l'Église, notamment lors des temps calamiteux, où le Christ doit être annoncé avec inventivité, sens des situations et courage, et parfois jusqu'au martyr. Et ces saints pasteurs nous incitent à continuer à reprendre le flambeau dans une époque un peu difficile quand même. Évangélisation qui suppose d'entrer plus avant dans la connaissance de Jésus-Christ, dans une existence marquée par l'Évangile et la sainteté de vie pour être crédible. Ces figures de l'Antiquité chrétienne ont reconstruit une Église mise à bas, défi qui est toujours le nôtre. Et il nous donne à réfléchir et nous renvoie à ce que nous dit le Saint-Père François. Aujourd'hui, note le pape François, Jésus veut continuer à construire son Église, cette maison au fondement solide, mais où les fissures ne manquent pas. C'est pourquoi l'Église a sans cesse besoin d'être réparée, comme à l'époque de François d'Assise. Dans l'Église, aucune petite pierre n'est inutile, a encore indiqué le pape, car dans les mains de Jésus, elle devient précieuse et utile à la construction. Soyons donc des pierres vivantes de son amour, pleines de l'Esprit Saint, a-t-il recommandé pour avoir une place et une mission dans l'Église. La synodalité, aux yeux du pape François, n'est pas un principe en soi, mais une condition de l'évangélisation. C'est parce que l'organisation ecclésiale doit être au service du peuple de Dieu dans sa totalité et non des structures elles-mêmes qu'elle doit permettre une véritable communion entre tous ses membres. Car derrière, c'est la mission qui est en cause. Les agents pastoraux de l'Église et les fidèles en général doivent, dit-il, se sentir partie prenante de l'Église, s'identifier avec elle et la rendre proche aux baptisés, distants et éloignés. Donc, la vocation missionnaire de toute l'Église. Et bon, ces vieilles figures nous invitent à cela. Voilà, j'ai terminé.
Les saints évêques des premiers temps des diocèses de Bayonne, Lescar et Oloron venaient de suivre une conférence de l'abbé Philippe Beitia, docteur en théologie et chancelier de notre diocèse. Cette conférence a été enregistrée le samedi 4 mai 2024 à l'abbaye de Belloc Habitat Humanisme lors des samedis de Belloc proposés par la communauté de Belloc et Radio Lapourdi Iratia.